Et on poursuit ce rendez-vous avec la cité Saint-Pierre et l'actualité de la cité Saint-Pierre à Lourdes et qui ne s'arrête jamais. Thomas Butry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé d'animation pour la cité Saint-Pierre. Alors, une semaine très chargée. On va revenir sur la première université de la solidarité et de la diaconie qui s'est déroulée la semaine dernière. Vous avez animé un atelier, vous avez participé à peu près à tout ce qu'il y a pu y avoir dans cette université. Mais auparavant, on va rappeler pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette Université de la solidarité et de la diaconie, un peu l'idée générale.
Oh bah l'idée générale, c'est très simple. Nous avons vécu ici Diaconia 2013, au mois de mai 2013. Et en fait, le réseau Saint-Laurent et différents acteurs avec qui on travaille, il y avait Emmaüs, il y avait ATD Carmonde, il y avait le SAPEL à Lyon, voilà. Tous ces acteurs se sont réunis en disant, mais quelques années après, quels sont les fruits de Diaconia 2013, qu'est-ce que ça a produit avec ces personnes qui sont accompagnées, qui sont souvent des personnes en précarité. Voilà. L'idée de Diaconia, c'était de donner une place et une visibilité aux plus petits et aux plus pauvres en Église. Et cette université, bah, c'était tout simplement pour relire, on va proposer des conférences, des temps d'échange, des temps de... On va expérimenter, on va tester, pour se dire ce qui a fonctionné, ce qu'on a pu mettre en place peut-être depuis Diaconia, et en même temps, quelles sont nos difficultés à mettre en place et pourquoi ça n'avance pas aussi vite qu'on voudrait.
Voilà, parmi les participants, il y avait, je crois, à peu près 500 personnes.
C'est ça, ouais.
Voilà, et il y avait des gens dans la fragilité, vraiment.
Tout à fait, tout à fait. Il y avait à la fois des personnes, soyons très simples, en situation de précarité très diverse. Des gens qui vivent la rue, des gens qui ont des difficultés familiales, voilà, des personnes qui avaient vécu la détention, des personnes qui sont, alors, dans les questions aussi brûlantes en ce moment, les personnes sans papier ou migrantes, voilà. Et associées à ces personnes-là, et j'insiste bien sur le associé, eh bien, tout un tas de personnes qu'on va dire être insérées dans la société de tous les jours, qui ont du boulot, qui ont une activité, qui sont bénévoles, parents, grands-parents, etc. etc. Mais des personnes associées parce que dans cette université, quoi que l'on ait pu dire, partager ou travailler, on est toujours reparti de l'expérience des personnes en précarité. C'est ça qui était important.
Et parmi ces personnes en précarité, ce qu'on a pu constater durant ces journées, c'est vraiment le sourire, la bonne humeur. Tout le monde se échangeait, se mélangeait,
alors,
il n'y avait pas de différence.
Non, et ça c'est un savoir-faire que nous avons au Secours catholique avec le réseau Saint-Laurent, c'est que quand on se réunit comme ça, y compris dans des sessions très Secours catholique où on va bosser du chapeau, on a constaté que ce qui marchait bien, c'était donner un badge aux personnes en disant « tu mets juste ton nom, ton prénom, ta fonction ». Ça nous intéresse pas. Voilà, que tu sois président d'une délégation, que tu sois responsable de ceci, cela. Je pense à notre secrétaire général Bernard Thibault qui était là. J'ai partagé un atelier avec lui et il s'est présenté en disant bonjour, je m'appelle Bernard, je travaille au Secours catholique. Pas plus.
Voilà.
Voilà. Et en fait, ça, à la fois, ça décomplexe parce qu'il y a des gens qui disent bah, moi, je m'appelle Maurice, je suis bénévole, mais Maurice, on ne sait pas quelle est sa situation et ce n'est pas grave. Ça évite à quelqu'un aussi de dire savez, alors moi, je m'appelle Jacqueline, ça fait 25 ans que je suis dans la rue, machin. Non, 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 la question, elle n'est pas là. C'est qu'est-ce qu'on va s'apporter et en partant de ton expérience à toi, je pense à une personne avec qui j'ai animé un atelier le mardi matin, qui est quelqu'un qui a connu la galère, qui s'appelle Frédéric. Et Frédéric, il est venu nous partager son envie avec quelques-uns de créer un jardin solidaire à Lourdes. Et en fait, Frédéric, il n'a pas trouvé autre chose à nous dire que, vous savez, ça ne marche pas, j'y arrive pas, c'est difficile, c'est compliqué, etc., etc. Et en fait, les gens qui étaient là dans cet atelier ne l'ont pas écouté en disant « mais t'es vraiment un bon à rien et t'es un nul ». J'ai vu des gens lui dire « mais tu sais, moi j'ai essayé un truc à Nantes, si tu veux, je peux te filer des tuyaux ».« Ah ouais, alors nous à Grenoble, on a pensé à ceci, cela ». Et du coup, l'atelier devenait un atelier coopératif. Mmh. Donc peut-être que le sourire venait de là. Je pense aussi, et nous avons une chance énorme, c'est qu'on a eu un temps vraiment formidable. Mmh. Voilà, il y avait du soleil. Et dans la cité Saint-Pierre et dans le sanctuaire, parce que vraiment l'université se vivait un peu à la cité et un peu au sanctuaire. Et dans chacune de ces places, j'ai vu des gens qui avaient du temps pour s'arrêter. Et on s'asseyait et ça papotait et ça se rencontrait. Et ça a été vraiment une des réussites de cette université. Comme vous dites, c'est le sourire qui nous a beaucoup aidés.
Juste pour que les auditeurs y voient un peu plus clair, est-ce qu'on peut en quelques secondes donner des exemples d'ateliers qui se sont...
Ah bah des exemples d'ateliers, un atelier donc que j'ai alors co-animé, je vais dire ça comme ça, avec Frédéric, sur la confiance en soi. Qu'est-ce qui nous permet, par des gestes, par des attitudes, d'avoir confiance les uns envers les autres, peut-être d'aller vers l'autre quand on n'ose pas. Et puis du coup, la confiance, quand on a confiance en soi et quand on est à quelques-uns, on ose lancer un projet, même si on se rend compte que ce n'est pas si simple. Ça, c'est une chose. Je pense à un atelier auquel j'ai participé, qui était proposé par... une association de Nantes qui s'appelle Lazare, et ils sont en train de développer des colocations solidaires. Mmh. En fait, ils récupèrent un bâtiment d'habitation dans une ville. Il y a en général dans ce bâtiment une famille qui vient vivre à demeure, et puis la colocation est partagée entre des étudiants et des jeunes actifs qui vont payer un loyer, et l'autre partie de la colocation, ce sont que des personnes en galère. Et du coup, quelle association, quel lien on va créer, quelle vie de famille, quelle mixité on va créer. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Voilà, on a travaillé autour de jeux de rôle aussi pour voir un peu comment on pouvait se positionner dans parfois peut-être tellement trop de prises de décision qu'on en devient un peu le supérieur, et comment on arrive malgré nous. Alors, c'était un jeu, mais comment on arrive malgré nous à écraser celui qui voudrait proposer quelque chose, mais qui n'y arrive pas parce qu'il a en face de lui ceux qui sont peut-être trop superbes.
La première université de la solidarité de la diaconie s'est déroulée donc la semaine dernière au sein de la cité Saint-Pierre à Lourdes. Je le disais, une actualité très riche pour la cité. Les évêques de France se sont réunis à Lourdes à l'occasion de leur assemblée d'automne. Et à cette occasion, vous avez reçu les évêques d'outre-mer. C'était le jeudi 2 novembre.
Oui, tout à fait. Ils sont venus passer un bout de temps à la cité Saint-Pierre. Alors, c'est une rencontre qui pourrait paraître complètement anodine. On accueille des évêques, ça n'a rien de bien méchant. Sauf que là, ce qui était intéressant, c'est qu'on était donc sur la fin de cette université de la solidarité de la diaconie. Et on s'est retrouvés à échanger de façon très simple avec des évêques qui nous parlaient de leur église, qui est notre église, sauf que ça se passe là-bas, au fin fond des dom-toms. Et du coup, quelles sont les réalités de l'église là-bas? Quelles sont nos pauvretés à nous en métropole? Mais quelles sont leurs pauvretés à eux? Et j'ai été notamment sidéré d'entendre des évêques nous dire, vous savez, nos paroisses, elles sont comme vous. Elles sont pas très pleines. On voit une population qui doute, qui vieillit, qui machin. Alors, on était à dire, ah ouais, ça, quand même, c'est problématique. Et j'ai vu des évêques dire... Mais il faut s'attacher à cette chance que l'on a parce que nos églises ne sont pas vides. Voilà. Et ça me donnait l'impression, parfois peut-être qu'on pleure un peu la bouche ouverte en disant on n'a jamais assez de ce qu'il faut. Et du coup, je rattachais leur témoignage, justement un témoignage qui nous a été fait à l'université là, par le vicaire général du diocèse d'Oran, qui dans son partage nous parlait de son église pauvre d'Oran, de son église en difficulté, en disant on n'est que 4000 chrétiens en Algérie, mais c'est 4000 fidèles qui sont présents. Voilà. Et je trouvais ça intéressant. Et puis, bien évidemment, comme c'était les évêques d'outre-mer, on a eu un échange assez long avec David Macaire, l'évêque de Martinique. Comment se positionne son église aujourd'hui, après les tempêtes et les ouragans qu'ils ont connus? Comment se situent les populations? Aujourd'hui, ce qui les bouscule beaucoup, c'est pas tant comment revivre après un ouragan, c'est que aussi pour se protéger et pour se reconstruire, il y a des familles qui sont parties à droite à gauche, qui sont parties en Guadeloupe, qui sont parties dans leur famille en métropole, et il dit aujourd'hui j'ai une église qui est complètement éclatée, donc il faut la reconstruire, parce qu'ils sont partis pour se protéger. C'est pas tant du matériel qu'on manque, c'est de personnes qui étaient des soutiens et qu'on n'a plus dans le moment. Voilà, donc ça, c'était vraiment aussi un moment riche.
Dans la continuité de cette actualité avec les évêques de France, la semaine dernière, la messe de France Télévisions, la messe du dimanche de France 2, était dans le sanctuaire de Lourdes, à l'occasion donc de la messe des évêques de France, une messe qui a eu lieu donc au Rosaire, et vous avez participé de manière active à cette messe télé, la Cité Saint-Pierre.
Voilà, la Cité Saint-Pierre a été invitée. Alors, il y a des bénévoles qui sont venus, et il nous avait été demandé notamment de lire une lecture, de lire la prière universelle et de participer à la procession des offrandes. Et les quelques bénévoles avec qui j'y suis allé me disaient que c'était pas la fierté de passer à la télévision, même si on est tous un peu curieux. Puis bon, c'est un peu surprenant quand on dit « tiens, je t'ai vu à la télévision » ou « je vais enregistrer parce que je veux voir ce que ça donne ». Ces bénévoles, ils étaient fiers parce que certains ont pu venir avec un blouson où dans le dos, c'était marqué « Moi, je suis bénévole à la cité Saint-Pierre ». Et pendant cette procession d'offrandes, ça avait quelque chose de très beau de dire « Ben voilà, on est associé à cette initiative, on est présent ». Alors ça se voit, c'est vrai, mais c'est des gens qui étaient extrêmement fiers de dire « Il y a tous les évêques de France, des dom-toms et puis quelques autres évêques invités de par le monde, ils étaient quand même 145, et de dire « À cette célébration, on était là ». Parce que nous sommes la cité Saint-Pierre. Voilà. Et ça, c'était vraiment pour ça que je disais en préparant cette émission, de toute cette semaine riche que nous avons vécue. Pour moi, c'est une semaine où nous avons été participants, on a été acteurs et associés à différentes initiatives, où vraiment ça valait le coup.
Voilà, la cité Saint-Pierre et l'actualité de la cité Saint-Pierre, c'est chaque semaine hein, sur les antennes de Radio Présence avec nos correspondants qui viennent dans les studios. Et cette semaine, eh bien, j'ai eu la chance d'avoir Thomas Butry en face de moi, que je remercie, chargé d'animation à la Cité Saint-Pierre. On se dit à très bientôt et bonne semaine là-haut.
Merci, à bientôt.